Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, émission que vous pouvez écouter tous les jours de la semaine, tôt à la radio de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou mieux l'abonnement au podcast, disponible entre autres en passant par l'application de Radio France. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée dans le Réveil culturel. Aujourd'hui, je reçois Jacques Ferrandez pour son adaptation du Chant du Monde de Giono qui sort chez Gallimard Bande Dessinée. Également présente avec nous ce matin, Emmanuel Lambert qui dresse un portrait de Jean Giono dans un remarquable livre entre l'essai et la biographie. C'est publié chez Stock et ça a pour titre Giono Furioso. Emmanuel Lambert est par ailleurs la commissaire de l'exposition de la rétrospective Giono, actuellement au Mucem à Marseille jusqu'au 17 février.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Jacques Ferrandez.
Bonjour.
Donc, après avoir adapté quelques œuvres d'Albert Camus en bande dessinée, pour des raisons évidentes, pour ceux qui savent que vous êtes né dans le même quartier Aljora de notre grand prix Nobel littéraire, donc après Camus, vous vous attaquez maintenant à Jean Giono en adaptant ce western provincial qu'est Le Chant du Monde. Pourquoi Giono ?
Il y a coutume de dire qu'il y a plusieurs manières de se tenir debout, on peut se tenir sur deux jambes. Moi, j'ai une jambe du côté algérien, puis une autre jambe du côté provençal, et voilà, il m'a suffi de retraverser la Méditerranée pour retrouver Giono. Giono, c'est aussi les paysages de mon enfance. Moi, mes parents sont installés à Nice juste après ma naissance, et toute cette région-là, je l'ai beaucoup écumée.
Mais vous vivez encore?
Alors, je vis toujours dans, Nice, ouais. Dans les Alpes-Maritimes. Alors, on n'est pas tout à fait dans le département où habitait Giono, qui était à l'époque, on disait les Basses Alpes, c'est les Alpes de Haute-Provence, en réalité, à Manosque, mais je connais bien toute la région, et Le Chant du Monde, en fait, je l'ai lu assez jeune, j'avais une période de Giono à l'adolescence, en fait, avec Colline, Regain, Que ma joie demeure, Un de Beaumune, et Le Chant du Monde, qui était peut-être le roman le plus épique ou le plus lié à l'aventure ou à ce qui pourrait s'apparenter à un scénario de western.
Et donc la commémoration cette année, enfin quand je dis cette année, c'est l'année prochaine, du cinquantenaire de la disparition de Jean Giono a fait que ce projet que vous aviez peut-être pas se concrétise. C'était un projet qui venait de votre part, Jacques Ferrandez, adapter un roman de Giono en bande dessinée ou c'est cette commémoration qui a fait que Gallimard BD vous propose cette adaptation de Giono?
Non, en fait, il y a quelques temps, on a fait une présentation pour les libraires avec le Chant du Monde. Et mon éditeur chez Gallimard a rappelé, du coup, je m'en souvenais même pas, que quand je l'ai abordé il y a une bonne douzaine d'années maintenant, je lui ai dit tout de suite, il y a deux trucs que je voudrais adapter, puisqu'il y a une collection bande dessinée chez Gallimard sur des possibilités d'adapter des classiques, en fait.
Des classiques Gallimard?
Classique Gallimard. En fait, moi, j'ai dit, il y a deux choses. Il y a l'hôte de Camus et le chant du monde de Giono. Donc, déjà, vous voyez, c'était quelque chose qui était un peu ancien dans mon idée. C'était de mettre des images sur ces textes qui m'avaient beaucoup impressionné en tant que lecteur.
Que raconte cette histoire, le chant du monde, Jacques Ferrandez?
Alors, en fait, comment dire, c'est une histoire avec deux personnages principaux, on peut dire. En tout cas, l'un des deux est un vieux monsieur, il s'appelle Matelot, c'est un ancien capornier, probablement un ancien marin qui vit dans la forêt, qui a changé de vie, qui est devenu bûcheron, et dont le seul fils qui reste, le Besson, parce qu'il y avait deux jumeaux, hein, qui est décédé accidentellement, l'autre est parti faire des coupes de bois en amont du fleuve et n'est pas revenu, alors qu'il aurait dû revenir avec son radeau de flottage de bois. Et donc, il est âgé, il pense qu'il est peut-être arrivé malheur, et il va voir un ami, enfin qui est quelqu'un qui vit sur le fleuve, sur une île, qui est Antonio. On peut dire que c'est quelqu'un qui vit d'amour et d'eau fraîche, pratiquement, au sens littéral. Et il lui dit, voilà, j'ai besoin de toi parce que tu connais le fleuve comme ta poche et il faut retrouver mon Besson. Et donc, ils vont remonter, c'est une recherche, en fait, ils vont remonter le fleuve pour savoir ce qu'est devenu ce Besson, pourquoi il a disparu et qu'est-ce qui est arrivé. Et du coup, ils vont changer d'environnement, ils vont franchir les gorges est passé du pays du bas vers le pays du haut. Et là, c'est un pays tout à fait différent, beaucoup plus montagneux. Et il y a quelqu'un qui règne sur ce pays, qui s'appelle Modru.
Une famille.
Une famille, et c'est quasiment... Ouais. Alors, c'est ça qu'on pourrait rapprocher ça d'un western. C'est vraiment comme dans ces westerns, il y a le grand propriétaire terrien à la tête d'un ranch avec ses bœufs, ses troupeaux, et ses bouviers. On pourrait dire que c'est des cow-boys, d'une certaine façon. Et ils vont se heurter, disons, à ce potentat local. Et tout, enfin, voilà, on va peu à peu avancer dans l'histoire pour savoir ce qu'est devenu Cheveux Rouges.
Alors, où se déroule cette histoire, le champ du monde de Giono? Alors, ce n'est jamais précisé hein, dans le roman de Giono, même s'il y a quelques indices qui rappellent effectivement votre région,
oui,
Jacques Ferrandez.
C'est souvent ça chez Giono, c'est-à-dire que c'est une Provence imaginaire, enfin, ou plutôt c'est une Provence reconstruite, parce qu'évidemment on sait bien que Giono vivait à Manosque et qu'il était inspiré par tout cet environnement. Il ne parle jamais de cette rivière que comme le fleuve, il dit jamais qu'il s'agit de la Durance. Le nom des villes, Villevieille, alors on peut imaginer que c'est peut-être Sisteron, que c'est peut-être Lurs, enfin bon, ou peut-être plus haut du côté d'Embrun ou autre. Et puis il y a ce pays Rebeillard qui est un nom inventé également, qui est le pays de montagne. Mais c'est ça qui est souvent saisissant chez Giono, c'est que d'abord il avait horreur, vous le dites dans votre livre Emmanuel,
Lambert,
d'être considéré comme un auteur régional ou régionaliste et qui veut en faire une espèce de fable ou de conte épique beaucoup plus universel. Et là c'est plutôt les éléments qui comptent. Alors il y a une géographie qui est condensée, on va dire, hein, c'est les Provences de Giono, et même le temps aussi d'une certaine façon est condensé, donc on est dans un roman qui est pas tellement réaliste en fin de compte. D'ailleurs, même l'époque n'est pas définie. C'est probablement une époque d'avant la mécanisation. Il n'y a aucun véhicule automobile. On pourrait imaginer que ça se passe peut-être avant la guerre de 14. Mais rien n'est précisé en fait dans ce livre. C'est ce qui en fait aussi peut-être la dimension universelle.
Alors, vous partez du roman Jacques Ferrandez pour faire cette adaptation. Mais vous avez beaucoup de chance puisque Giono lui-même voulait adapter son roman au cinéma. Le projet n'aboutira jamais, mais il y a des écrits, il y a sa propre adaptation.
Il y a un scénario, ce qu'il appelle un découpage technique. D'ailleurs, c'est ça qui m'a beaucoup excité. Moi, bon, Le Champ du Monde, je connaissais le roman. Et je connaissais même, je dois avouer, aussi le film qui en avait été tiré dans les années 60, qui était un film, une espèce de coproduction européenne à l'époque, réalisé à partir du roman, disons, avec un beau casting, hein, d'ailleurs, Charles Vanel, Catherine Deneuve, etc. C'était les années 60. Je dois dire que j'avais vu ce film à l'époque où il est sorti.
En 1965, quoi.
En 67, ouais. C'est ça, je crois. Et donc, ça avait participé aussi de mon imaginaire sur ce roman. Mais c'est un film aujourd'hui qui est impossible de voir. Il n'est pas en DVD, il n'est jamais diffusé à la télévision. Je ne sais pas s'il y a une question de droit là-dessus ou quoi. Donc moi, j'avais ce vieux souvenir du film. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur les lieux. C'est-à-dire, évidemment, les lieux ne sont pas décrits. Mais on peut imaginer que ça se déroule entre Durance et Verdon, et puis peut-être la vallée de l'Ubaye pour les paysages d'hiver. Et c'est d'ailleurs les paysages que Giono avait décrits pour son film. Il avait fait des repérages, justement, en tout cas dans la vallée de l'Ubaye, dans certains villages du côté de Fort Calquier, pour décrire des
voilà.
bâtiments.
Donc pour cette bande dessinée, Le Champ du Monde, vous avez fait à peu près ce qu'a fait Giono quand il essayait d'adapter son roman au cinéma, c'est-à-dire que vous êtes allé faire des repérages. Est-ce que ces repérages, c'est sur les traces du repérage de Jean Giono voulant adapter au cinéma son roman?
Enfin, pas vraiment, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est la manière dont Giono, justement, quand il fait une version destinée à un moyen d'expression visuelle, il enlève, entre guillemets, toute littérature. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les descriptions qui sont dans le roman, qui sont extrêmement poétiques, extrêmement lyriques, là, sont réduites simplement au minimum. C'est-à-dire, c'est uniquement ce qui passe par le dialogue. Et là, moi, je me suis régalé, parce que ne serait-ce que dans le dialogue, il y a tout ce verbe, cette langue de Giono, qui apparaît.
Et vous avez gardé, hein.
J'ai pas du tout modifié les dialogues. Alors, il s'est servi lui-même pour faire le dialogue de son film, qu'il n'a jamais pu réaliser, de ce qui est dans le roman. Mais évidemment, en modifiant certaines séquences, même en modifiant parfois le rythme aussi. Donc, j'étais très intéressé, justement, de me servir des deux sources, c'est-à-dire à la fois le roman et le scénario que Giono avait imaginé pour en faire un film qui n'a jamais vu le jour.
Et vos repérages, parce que à l'occasion de cette bande dessinée, vous avez été suivi depuis le début de l'écriture de cette bande dessinée, y compris quand vous avez décidé de faire des repérages par Michel Viot pour un documentaire qui passait à France 3 Alpes-Côte d'Azur, mais qui sera projeté au MUCEM le 27 novembre. Et là, on voit bien, vous allez en repérage, vous prenez des notes, vous essayez de restituer le paysage.
Oui, parce que c'est évident qu'on sait bien que c'est cette Provence-là qui a inspiré Giono, donc autant aller sur les lieux pour soi-même s'en imprégner. Et c'est vrai que moi j'ai besoin, quand j'utilise la double page de l'album, d'avoir des grands paysages. Oui, oui, c'est vrai, l'histoire démarre, s'ouvre sur un grand paysage du fleuve avec les montagnes à l'arrière-plan. C'est évident que là, pour nourrir moi-même mon dessin, j'ai besoin aussi des éléments réels. C'est-à-dire que même si, évidemment, c'est pas photographique, même si je transforme sans doute à mon tour le réel, j'ai besoin de cette base-là, simplement, c'est ce qui me sert d'inspiration.
La nature est très très présente, mais la nature, avec cette histoire qui va nous faire traverser les saisons, mais aussi le jour, la nuit.
Alors c'est ça aussi, dans le roman, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de nuit, et je me disais, mais comment faire? On va pas avoir la moitié de l'album qui se déroule, mais c'est la nuit noire en plus, ils n'ont pas souvent un briquet ou une chandelle ou un feu pour éclairer la scène, donc c'est souvent des scènes qui se passent vraiment dans l'obscurité la plus totale. Donc bon, c'est vrai qu'en bande dessinée, on peut faire ça, on met des cases noires et puis on met juste des bulles dans lesquelles se trouvent les dialogues, ça va un moment, mais on peut pas faire ça sur la moitié de l'album. Donc j'ai dû modifier, c'est ce qu'on fait généralement sur une adaptation, c'est qu'on condense les choses, et puis bon, j'ai gardé pas mal de scènes de nuit quand même, les scènes clés qui se passent la nuit. Il y a une scène très belle où Antonio décrit les étoiles à un des bouviers, là, en s'inspirant de cette femme qu'il vient de rencontrer. Donc là, on est en plein dans Giono, vraiment. Mais pour des raisons vraiment des raisons pratiques, des raisons de dessin, j'ai dû parfois un peu jouer justement avec la temporalité du récit.
Aquarelle, toujours?
Toujours, c'est un peu mon mode d'expression. Je trouve ça me va, j'aime bien. Alors là, par contre, on pourra constater que dans cet album, il y a beaucoup plus de vert que dans les albums qui se déroulent en Algérie, même s'il y a des couleurs un peu plus rousses à l'automne. Mais j'ai un peu fait aussi évoluer ma palette en fonction de ce qu'il y a à montrer.
Alors, dans votre découpage, il y a, vous venez de le dire, des pleines doubles pages pour que cette nature si importante chez Giono soit représentée. Mais vous intégrez à l'intérieur de ces doubles pages des cases pour que l'action continue à se dérouler.
Oui, ça c'est un peu ma marque de fabrique, si on veut. C'est-à-dire j'aime bien, entre guillemets, planter le décor littéralement, c'est-à-dire tout de suite installer, disons, le lecteur dans le lieu où ça se passe, et selon l'ambiance, voilà, il fait beau, il fait pas beau, c'est le jour qui se lève, ou c'est la fin de la journée, ou c'est la nuit, en effet. Et à travers cette mise en scène qui utilise tout l'espace de la double page de l'album, en effet, il y a l'action qui se déroule un petit peu en surimpression par rapport à ces grands fonds d'aquarelle. Mais c'est une manière que j'ai de raconter depuis longtemps, qui me permet aussi de varier. Parce que dans la bande dessinée, on est toujours sur un langage très codifié, la case, la bulle, etc. Et là, du coup, ça me permet de sortir un petit peu et de donner une réelle importance au paysage, qui est un véritable personnage dans ce récit de Giono.
Pour les personnages, quand vous adaptez cette œuvre de Jean Giono, Le Chant du Monde, comment vous faites pour imaginer les personnages ?
Oh ben ils sont assez bien décrits par Giono, c'est-à-dire que Antonio, il est décrit de façon même très précise, sa musculature, sa peau, parce qu'il se baigne nu tous les matins, il va dans le fleuve, il nage avec les poissons. Là aussi, j'étais obligé de condenser un petit peu cette séquence-là. On aurait pu faire 6 pages où il nage avec les poissons. Les personnages sont décrits de façon assez précise. On sait à quoi ressemble Antonio, on sait à quoi ressemble Cheveux Rouges, qui a une musculature beaucoup plus de bûcheron. Vous savez, quand on voit des athlètes, les nageurs, ils ont une musculature très fluide. Et puis les haltérophiles, ils n'ont pas du tout la même morphologie.
Et ça part directement du texte à votre imaginaire vous dessinez, vous avez besoin de trouver des modèles qui ressemblent un peu aux personnages décrits par Giono.
Oh, on crayonne toujours avant de se lancer, on fait des études de personnages. Le matelot, Clara, elle est assez peu décrite, si ce n'est ses yeux en feuille de menthe. Voilà, je ne trouvais plus. Et donc là, il suffit d'imaginer des yeux. Elle est aveugle, mais elle a les yeux ouverts, donc les yeux verts. Bon. Après ça, c'est vraiment chacun. Je pense qu'on aurait confié cette histoire à d'autres dessinateurs. Ils auraient probablement imaginé d'autres personnages. C'est ma proposition, disons, sur ce texte.
Le réveil culturel. Toufik Hakem. Thank you.
De tous les livres de Jean Giono que vous avez lus, pourquoi Le Chant du Monde est celui que vous avez choisi d'adapter en bande dessinée? On a parlé bien sûr des décors, du côté western, lyrique, hein, c'est-à-dire plutôt à la John Ford.
Oui, je pense d'ailleurs que Giono avait une grande admiration pour le cinéma américain, notamment celui de John Ford. Il y a quelque chose d'épique et presque de mythologique. Hein. Je crois qu'aussi Giono pensait à l'Iliade, enfin il pensait à Homère. Donc il y a quelque chose d'homérique effectivement dans cette histoire-là. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé.
Ça tombe bien puisqu'il a signé la préface de l'Iliade, Jean Giono. On l'apprend d'ailleurs dans le livre Giono Furioso d'Emmanuel Lambert. Ouais.
Oui, puis vous savez aussi, il a été le traducteur de Moby Dick, de Melville. Donc il y a cet aspect très mythologique, très universel, très le récit, vous voyez, intemporel chez Giono. Et je trouve que dans Le Chant du Monde, il y avait ça, parce que des fois, on pouvait raccrocher ça à une mythologie bien connue du cinéma d'action. Et en même temps aussi, moi, ce qui me plaisait, c'était de faire évoluer ces personnages en action à travers les saisons, dans ces paysages.
Emmanuel Lambert, merci d'être venu avec nous. Vous êtes tout à la fois l'auteur de cet essai de biographie de Giono Furioso, qui sort chez Stock, et aussi la commissaire de cette grande rétrospective qui s'ouvre au Mucem à Marseille, une grande exposition consacrée à Giono. Première question, Le Chant du Monde, il a quelle place dans l'œuvre de Jean Giono?
Alors, dans l'œuvre de Giono, je ne saurais vous dire, mais dans mon rapport à l'œuvre de Giono, il est fondamental parce que c'est le premier livre que j'ai lu de lui. Et du coup, je l'aborde, moi, d'une manière particulière. Je pense, sans vouloir m'avancer trop, parce que l'œuvre de Giono est tellement vaste que c'est toujours très compliqué d'avoir une parole définitive sur cette œuvre. Il faut vraiment se méfier de ça. C'est vaste, ça bouge, ça vit, ça change. À chaque fois qu'on croit tenir un bout de Giono, il nous échappe. Je dirais que Le Chant du Monde est, à mon sens, un des seuls romans lumineux de Giono. Je trouve la couverture de la bande dessinée de Jacques Ferrandez très belle, parce que il y a à la fois la nuit et la lumière dedans. Et c'est un des romans où on sent qu'il y a encore chez Giono une forme de bonté naïve qui va aller se fracasser après, avec la Seconde Guerre mondiale, et l'œuvre sortira nappé d'une forme à la fois d'ironie et de noirceur un peu grinçante qu'il n'y a pas dans ce grand roman, qui est un grand roman de bonté malgré tout.
Oui. Est-ce que ce n'est pas tout un programme chez Giono, le Chant du Monde? Parce que ce qu'on apprend d'ailleurs en postface de la bande dessinée de Jacques Ferrandez, dans un texte signé par le président des Amis de Jean Giono, Jacques Ménis, c'est que ce titre-là, Le Chant du Monde, avant d'être le titre du roman, ça a été le titre de plusieurs de ses articles.
Oui, c'est un programme, c'est-à-dire c'est... Giono, il a un rapport à l'écriture et donc à la réalité, qui est un rapport de poète. Comme c'est un écrivain et un poète, son histoire, évidemment, elle prend une dimension symbolique. Ce qu'on entend dans ce qu'il dit, c'est ce que disent les poètes depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils sont traversés par les choses, ils sont traversés par le monde. Ils sont la chambre d'écho du monde. Et leur œuvre, leur style, leur chant, et là, on retrouve, c'est ce que disait Jacques Ferrandez, on retrouve Homère, on retrouve le modèle de la poésie antique. Hein. Leur chant, c'est leur responsabilité, c'est ça, c'est d'être cette chambre d'écho du monde. Alors, à ça, il faut ajouter qu'à cette époque, Giono est encore animé par des idéaux pacifistes qui reposent sur l'harmonie entre l'homme et la nature. Donc, c'est un grand roman d'élan vers le monde et de possibilité de la salvation de l'homme par le monde, qui va être vite contredit par le roman d'après, Que ma joie demeure, qui sort un an après, hein, qui lui est un échec.
Alors, l'année prochaine, en 2020, on va fêter le cinquantenaire de la disparition de Jean Giono, mais dès cette année, et ça on l'apprend dans votre livre Emmanuel Lambert, il y a un autre anniversaire tout aussi important, puisque le premier roman de Jean Giono paraît il y a tout juste 90 ans, c'est en 1929. Colline.
Vous vous rendez compte, 90 ans. C'est ça qui est extraordinaire pour moi. C'est la permanence de Giono par-delà deux guerres, par-delà le siècle, parce que c'est pour une certaine partie un homme du 19e siècle, même s'il est né en 1895 et qu'il n'a pas vécu, mais il a été tellement influencé par son père, par les lectures d'autodidacte de son père cordonnier. Donc c'est à la fois un homme du 19e, c'est l'homme du 20e.
Marqué par les événements du 20e siècle.
Absolument.
Parce qu'il a été même inquiété à la fin de la guerre.
Ah bah, il a été carrément mis en détention, il a été inquiété très sérieusement. Mais c'est aussi et surtout pour moi un homme de la Renaissance, Giono. Je pense que son rapport à la langue, à la poésie, à la réalité, est façonné par la Renaissance, qui est le moment où on redécouvre les auteurs gréco-latins, comme lui l'a fait, parce que lui, étant fils de pauvres, de gens qui avaient des moyens très limités, il a quitté l'école à 16 ans. Donc il a une culture purement autodidacte, et comme les livres de la culture classique étaient moins chers, il a commencé par lire ceux-là. Et donc, cette manière dont Giono est à la fois traversé par son siècle, à la fois dont sa biographie et son œuvre est pleine de tout le fracas, et notamment, on en reparlera peut-être, mais avec un côté pré-écolo, proto-zadiste, extrêmement intéressant, je trouve, mais en même temps dont il a les pieds dans les siècles passés et la tête dans les étoiles. Voilà, pour moi, c'est ça, Giono.
Comment raconter Giono, un écrivain, une époque, à travers une exposition, celle du Mucem? Puisque vous êtes aussi, Emmanuel Lambert, je le rappelle, la commissaire de cette exposition.
Ben oui, c'est une mission impossible, face à laquelle il faut avoir beaucoup de modestie.
Et beaucoup d'imagination, et vous en avez.
Beaucoup d'imagination, oui. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Ce qu'on peut raconter, j'allais dire aisément, c'est trop fort aisément, mais ce qu'on peut raconter, disons, de manière raisonnablement compréhensible, c'est la biographie. Là-dessus, moi j'ai beaucoup de chance, Giono n'a jamais bougé de chez lui, donc tout est là. Il y a parfois des écrivains sur lesquels réunir une documentation est de l'ordre de la prouesse, parce qu'ils ont vécu des vies d'aventure.
Toujours été fidèle à sa région. Ah, oui.
Toujours. Il est resté toute sa vie dans la même maison, il est mort dans sa maison. L'association des amis présidée par Jacques Mini, qui est conseiller scientifique de l'exposition, conserve les archives là-bas. Il y a également Sylvie Giono, sa fille cadette, qui habite pas loin, qui a beaucoup de choses. Donc voilà. Donc ça c'est une chance formidable. Donc d'une certaine manière, il n'est pas si compliqué finalement de montrer les traces de la vie de l'homme qui a vécu. Seulement l'homme qui a vécu, c'est pas forcément l'homme qui a écrit. Ce sont deux choses différentes. Et c'est là
l'imaginaire de Giono.
Exact.
Comment le représenter?
Voilà, c'est ça qui est compliqué. Alors moi, mon angle, il est en fait assez ferme. C'est que je pense que si Jean Giono, pour l'état civil, qui ne savait pas nager, est né à Manosque en 1895 et est mort à Manosque en 1970. Je pense que Giono, l'écrivain, lui, il est né dans la tranchée de la Première Guerre mondiale. Et que pour comprendre son œuvre, il faut tirer ce fil-là. Il faut tirer le fil de la question du mal et de comment sortir du mal. Il a une citation comme ça, il dit, en 34, dans son premier écrit pacifiste, il dit « L'intelligence est de se retirer du mal ». Je trouve cette phrase absolument admirable. Et donc, c'est comme ça qu'on peut exposer le trajet de l'œuvre, en essayant de montrer comment on se retire du mal. Alors, vous avez dit un mot très important qui est le mot d'imaginaire. C'est qu'effectivement, cet être imaginaire qui est un écrivain, parce qu'il y a l'être réel de chair et puis il y a l'être imaginaire qui est celui qui écrit, il faut aller le chercher dans son imaginaire propre pour que le visiteur puisse éprouver quelque chose qui est l'ordre de l'expérience que l'œuvre provoque. Et ça, c'est très compliqué. C'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'on ne peut pas faire un manuel scolaire en trois dimensions, c'est pas l'idée. Il ne suffit pas d'écrire un panneau de texte en expliquant « il a fait ci, il a fait ça, ça ennuie tout le monde », c'est pas une expo. Une expo, c'est de l'espace, c'est visuel. Donc les choses qui étaient de l'ordre de la suggestion, de l'évocation, des expériences qui, à mon sens, étaient des expériences fondatrices, matricielles de l'imaginaire de Giono, je les ai confiées à des artistes. Et donc il y a quatre commandes d'artistes contemporains qui ont été passées, pour que le visiteur puisse à la fois éprouver les choses face aux installations des artistes et puis ensuite les décrypter, les comprendre avec l'exposition des documents, du contexte, etc.
Donc Giono vu, vécu, ressenti par des artistes.
Oui, absolument. Oui.
Enfin, pour terminer, Emmanuel Lambert, pour revenir au Champ du Monde, donc qui sort en 1934, pourquoi ce livre a fait l'objet de tant d'adaptations, de tentatives d'adaptations au cinéma, et là, enfin, avec une bande dessinée de Jacques Fernandez?
Ben, je pense que c'est lié à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que c'est un livre qui est plein de péripéties. C'est un livre qui est plein de développement, qui relève à la fois du western, qui relève aussi de la tragédie grecque, qui relève de l'épopée, qui relève du mythe. Donc, c'est un livre absolument foisonnant, et qui est porté par un désir intense. Et ce que disait Jacques tout à l'heure sur le corps d'Antonio, moi j'ai trouvé ça absolument fascinant. J'avais pas soupçonné que Juno pouvait être queer avant la lettre, mais manifestement il l'est.
Vous êtes d'accord, Jacques?
Pas vraiment. Non, il y a beaucoup d'inconscient peut-être.
Mais... Bien sûr, oui, c'est-à-dire qu'il y a
elle
un désir...
Elle parle de Juno, pas de vous.
Non, pas de vous. Quoique. Non, il y a un désir du vivant chez Giono. Et ça se porte sur les corps, que ce soit les corps des hommes ou les corps des femmes, c'est la même histoire. Ce qui l'intéresse, c'est la vie qui palpite sous la peau des êtres. Que ces êtres soient des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres animés comme les plantes, comme les arbres. Et ça, c'est le champ du monde, c'est un grand souffle qui est traversé par la vie.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
L'expo Giono au Mucem à Marseille, c'est jusqu'au 17 février. L'ouvrage d'Emmanuel Lambert, Giono Furioso, est édité chez Stock. Et puis enfin, bien sûr, l'adaptation de Jacques Ferrandez du Chant du Monde, c'est chez Gallimard. Bande dessinée, merci beaucoup Emmanuel Lambert et Jacques Ferrandez d'être passés ce matin dans le Réveil culturel. Merci beaucoup.
Merci
à vous.